Journal d'un écrivain, 1877, septembre. Chapitre 1. Le malheureux et les ratés. Il est difficile de s'imaginer des gens plus malheureux que les républicains français, et quelque chose de plus triste que leur république. Voici bientôt 100 ans que cette forme de gouvernement a paru chez eux, et depuis lors, nous en sommes au 3e essai. Chaque fois qu'un usurpateur a droit à confisquer la République à son profit, elle n'a trouvé personne pour la défendre sérieusement. Seuls des groupes insignifiants ont tenté quelques résistances. Et tant qu'elle durait, la République n'était jamais regardée comme un gouvernement définitif. Néanmoins, il n'y a pas de gens plus convaincus que les républicains français de la sympathie que leur porte le pays. À la fin du siècle dernier, et en 1848, ils pouvaient peut-être compter sur quelques bonnes volontés. Mais les républicains d'aujourd'hui, destinés tôt ou tard à être mis de côté avec leur république par un personnage encore inconnu, ne devraient espérer rien de pareil. Ils n'existent qu'en vertu de ce proverbe. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et cependant, à la veille de leur chute presque certaine, ils croient la victoire assurée. A-t-elle été assez malheureuse, cette 3e République ? Rappelons-nous comment elle est née. Les républicains français ont attendu près de 20 ans la minute glorieuse où l'usurpateur tomberait et où le pays les appellerait de nouveau. Et qu'est-il arrivé ? Ils se sont emparés du pouvoir après Sedan, et ces ratés ont eu tout de suite sur le dos une guerre désastreuse dont ils ne voulaient pas. Un héritage du sudit usurpateur parti pour fumer des cigarettes dans le délicieux château de Wilhelmshöhe. Cet usurpateur a dû assez rire de ces gens qui endossaient sa propre faute. Car ce sont eux encore plus que lui que la France a, par la suite, blâmé de n'avoir pas su arrêter à temps une lutte sans espoir, d'avoir perdu 2 grandes provinces et 5 milliards, d'avoir ruiné le pays en guerroyant au hasard, sans ordre et sans contrôle. On tombe sur Gambetta, qui n'est coupable de rien, qui, au contraire, a fait tout ce que l'on pouvait faire en d'aussi horribles circonstances. En un mot, on accuse fermement aujourd'hui les républicains d'avoir fait le malheur du pays par leur maladresse. La première cause de ce malheur a été l'empereur Napoléon, soit. Mais eux, pourquoi n'ont-ils pas remédié aux fautes commises? Ce n'est pas tout. On veut qu'ils aient encore empiré la situation. Mais comment eussent-ils pu faire la paix quand ils sont arrivés au pouvoir? C'était impossible. Les Allemands eussent quand même exigé une cession de territoire et de l'argent, et que fussent devenus les républicains dans ces conditions, on les eût taxés de lâcheté. Et quoi, aurait-on dit, ils avaient encore une armée, et ils cédaient honteusement. C'eût été une tâche pour leur république nouvelle. Et comme la restauration de la forme républicaine leur était beaucoup plus chère que le salut du pays, ils durent continuer la guerre, tout en comprenant que plus la fin tarderait, plus le désastre serait terrible. Dès qu'ils eurent fait la paix avec l'Allemagne et se mirent à gouverner le pays, ils se figurent que la nation était prise pour eux d'une affection inébranlable. C'était un peu comique. Décidément, il existe chez tout républicain une conviction fort malheureuse, à savoir que le mot de république suffit à tout et qu'il n'y a qu'à dire que le pays est une république pour que son bonheur soit assuré de l'éternité. Tout ce qui arrive de fâcheux à la république, on l'attribue à des circonstances extérieures gênantes, à des prétendants, à des ennemis perfides. Pas une fois on ne songe à la ténuité des racines qui unissent la république au sol français. Pas une fois pendant ces 6 années, les républicains n'ont pensé que la situation héritée de Napoléon III était toujours aussi critique, que de nouveaux dangers approchaient, qui pouvaient la faire encore plus critique et rendre leur gouvernement impossible en France. Quel est le plus chaud partisan de la République française? Quel est l'homme qui désire le plus qu'elle s'affermisse? c'est le prince de Bismarck. Avec la République, les républicains vont aller déclarer la guerre aux Allemands? Toutefois, les blessures vont se cicatriser, des forces nouvelles naîtront, des armées vont se créer, et la nation qui a eu si longtemps un rôle prépondérant dans la politique européenne voudra reconquérir son ancienne situation. On voudra secouer la tutelle de Bismarck et recouvrer l'indépendance d'autrefois. On ne peut guère dire que la France soit aujourd'hui indépendante. Et dès son premier pas, la France heurtera à sa République. Car les républicains, je le répète, ne veulent en rien fâcher le prince de Bismarck et risquer une guerre avec lui. Si l'Allemagne les battait de nouveau, ce serait la fin de la République. La France l'accuserait de tous les insuccès et chasserait à jamais les républicains, oubliant que c'est elle-même qui a voulu la revanche pour reprendre son ancienne influence en Europe. Si les républicains tenaient bon et refusaient de déclarer la guerre, on leur reprocherait de s'opposer au désir du pays, on leur ôterait leur place, et la France se donnerait au premier chef un peu adroit qui se présenterait. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils étaient des protégés du prince de Bismarck, et qu'à mesure que la France reprendra des forces, elle les méprisera davantage, jusqu'au jour où elle manifestera son mépris à haute voix. Mais les républicains n'ont pas le sens du comique. Ce sont des hommes théâtraux. Maintenant qu'ils se réveillent un peu depuis que MacMahon vient d'ajourner les chambres jusqu'aux nouvelles élections d'octobre, ils se proclament les opprimés, les victimes, et se sentent entourés d'une auréole de martyrs. Ils s'attendent à ce que toute la France entonne la Marseillaise et clame « On assassine nos frères !» le cri classique de toutes les révolutions parisiennes, qui précède immédiatement la ruée aux barricades. En tout cas, ils espèrent que le pays va culbuter MacMahon, cet usurpateur en herbe, et élire toute l'ancienne majorité républicaine. Alors, la Chambre imposera son veto à MacMahon, qui, effrayé des droits légitimes des républicains, se soumettra. Ils croient imperturbablement à leurs droits légitimes. Ils ont si longtemps souffert pour leur république bien-aimée. À notre grand étonnement, quelques journaux russes croient à leur triomphe prochain. Et pourtant, si MacMahon ne se soumet pas, l'indignation du pays n'empêchera pas le maréchal de trouver des partisans fort nombreux, comme il arrive toujours en France en pareil cas. Que faire? Construire des barricades? Mais avec les fusils et canons actuels, les barricades sont impossibles. Et je ne crois pas que la France veuille les élever, ces barricades. La France peut désirer la République, mais hélas, exténuée après le gâchis politique d'un siècle, elle regardera les choses à son point de vue plus prosaïque et se soumettra à la force. La force est maintenant du côté des légions, et le pays le pressent. La question est de savoir pour qui, au juste, sont les légions. Chapitre 2. Un caractère intéressant. Avant que le maréchal lançât le manifeste dans lequel il parle des légions comme d'une force nouvelle, j'avais déjà parlé de la situation politique de la France dans mon carnet de mai-juin. Tout s'est passé comme je le prévoyais alors. Dans le manifeste, MacMahon promet de respecter les droits légitimes, de faire tout pour la paix, mais déclare toutefois que, si le pays lui renvoie l'ancienne majorité républicaine, il sera forcé de résister aux volontés du dit pays. Cette étrange résolution doit avoir quelques motifs. Il n'aurait pas osé parler d'un pareil ton s'il ne croyait pas à son succès. Il faut qu'il mette tout son espoir dans l'armée et soit parfaitement sûr de ses chefs. Dans le voyage qu'il a fait cet été, et pendant lequel il a visité beaucoup de villes, trop de villes, la population l'a accueilli sans enthousiasme. Mais partout l'armée de terre et la marine ont témoigné de leur fidélité par des acclamations. Les intentions du maréchal doivent être fort innocentes. S'il parle d'aller contre le gré du pays, c'est probablement parce qu'il croit faire ainsi son bonheur malgré lui. On ne doute pas des qualités morales de Mac Mahon, mais il est d'autres qualités qui lui manquent peut-être. Il paraît que le maréchal est de ceux qui ne peuvent se passer d'une sorte de tutelle. Son caractère offrait quelques particularités curieuses. Par exemple, une question se pose. Pour qui travaille-t-il? Pour qui se donne-t-il tant de mal? Il est certain que quelqu'un le conduit et qui est le seul en Europe à ignorer. Des gens adroits lui persuadent évidemment qu'il s'agit de son propre gré tout en le menant où ils veulent. Il n'y a qu'un seul parti où l'on puisse rencontrer des gens aussi malins. C'est le parti clérical. Les autres factions en France ne brillent pas par l'habileté. Le maréchal semble protéger les candidats bonapartistes qui escomptent leur propre victoire aux prochaines élections. L'armée paraît inclinée de ce côté. On a même affirmé que le prince impérial a quitté l'Angleterre et a l'intention de se rendre à Paris. Mais croit-on que le maréchal prend tant de peine uniquement pour faire monter le prince impérial sur le trône? Moi, je pense que non. Maintenant, nous avons vu dans les journaux quelques combinaisons vraiment extraordinaires. N'a-t-on pu lire, il y a un mois environ, que le prince impérial s'était fiancé à la fille du maréchal? Mais comme ces combinaisons sont certainement fantaisistes, il me semble que le maréchal serait plutôt enclin à faire le bonheur du pays pour son propre compte. S'il soutient les candidats bonapartistes, c'est qu'il les croit plus sûrs que les autres et s'imagine les diriger à sa guise. Dieu sait quelles idées peuvent naître dans un esprit comme celui-là. Ce n'est pas en vain qu'un évêque, dans un discours récent, lui a démontré qu'il descendait de Charlemagne par les femmes. Avec cela, c'est un guerrier militaire. Du reste, ce ne sont là qu'explications hasardeuses d'un caractère énigmatique. En attendant, on peut dire qu'il est dans les mains de gens qu'il croit mener. L'Europe soupçonne qu'il s'agit des cléricaux, mais ces derniers savent cacher l'importance réelle de leur rôle. Ils se cacheront derrière le maréchal, et les bonapartistes, si vous voulez, jusqu'au moment où ils atteindront leur but. Au fond, je me figure qu'il leur est indifférent de voir triompher le maréchal ou le prince impérial, pourvu qu'ils puissent jeter la France sur l'Allemagne. C'est dans ce but qu'ils ont ruiné l'influence des républicains, peu disposés à combattre pour le pape. Ils attendront patiemment que les choses se dessinent pour le prince impérial ou pour Mac Mahon. Quant à ce dernier, il aurait dit dernièrement « On répand le bruit que j'ai l'intention de détruire les institutions républicaines. On oublie qu'en acceptant la présidence de la République, j'ai donné ma parole d'en être le gardien. » Ces paroles sembleraient affirmer la bonne foi du maréchal, mise en doute par les républicains. Mais s'il veut garder la République en chassant les républicains, c'est qu'il rêve une sorte de république réactionnaire. On a dû lui persuader que c'était possible, et cela irait avec son fameux « j'y suis, j'y reste ». Il irait comme cela jusqu'en 1880, époque où arrivera le terme de sa présidence et de sa parole d'honneur. Mais il peut faire un rêve dont la réalisation commencerait alors. Le pays reconnaissant lui proposerait, pour se préserver des démagogues, un rôle nouveau, disons celui de Charlemagne. Et alors tout irait admirablement bien. Les gens adroits qui le conduisent le guettent, et s'il veut tenir sa parole de conserver les institutions républicaines, lui substitueront un Bonaparte. On affirme que c'est pour cela qu'ils l'ont poussé à soutenir les candidatures bonapartistes en lui prouvant qu'il travaillait pour lui. En un mot, on sent là-dessous un immense mouvement catholique. On dit que la santé du pape est satisfaisante. Mais si par malheur la mort du pape coïncidait avec les élections en France, la guerre d'Orient pourrait bien se transformer en lutte pan-européenne. Chapitre 3. Le mensonge se sauve par un mensonge. Un jour, Don Quichotte, le chevalier si connu, le plus magnanime chevalier qui ait jamais existé, vagabondant avec son fidèle valet d'armes Sancho, eut un accès de perplexité. Il avait lu que ses prédécesseurs des temps anciens, Amadis de Gaulle par exemple, avaient eu parfois à combattre des années entières des 100 000 soldats envoyés contre eux par les puissances des ténèbres ou de magiciens. Ordinairement, un chevalier qui rencontrait une pareille armée de réprouvés tirait son glaive, appelait à son secours spirituel le nom de sa dame et se jetait seul au milieu des ennemis qu'il exterminerait jusqu'au dernier. Tout cela était fort clair. Mais ce jour-là, Don Quichotte demeura pensif. Comment voulait-on qu'un chevalier, si fort et si vaillant qu'il fût, extermina 100 000 adversaires en un seul combat de 24 heures? Pour tuer chaque homme, il faut du temps. Pour en tuer 100 000, il faut un temps immense. Comment tout cela pouvait-il se passer? « Je suis sorti de ma perplexité, ami Sancho, » dit à la fin Don Quichotte. « Ces armées étaient diaboliques, partant imaginaires. Les hommes les composant n'étaient qu'une création de la magie. Leurs corps ne ressemblaient pas aux nôtres. Ils avaient plus d'analogie avec ceux des mollusques, des vers ou des araignées, si bien que le glaive des chevaliers les tranchait d'un seul coup, sans rencontrer plus de résistance que dans l'air. Et s'il en était ainsi, on pouvait tuer 3, 4 ou même 10 de ces guerriers d'une seule estocade. C'est comme cela qu'il était facile de se défaire, en quelques heures, d'armées de ce genre. » En ceci, l'auteur de Don Quichotte, grand poète et profond observateur du cœur humain, a compris l'un des côtés les plus mystérieux de nos esprits. On n'écrit plus de livres pareils. Vous verrez dans Don Quichotte les plus secrets arcanes de l'âme humaine révélés à chaque page. Remarquez que ce Sancho, le valet d'armes, est la personnification du bon sens, de la prudence, de la ruse, et qu'il est pourtant devenu le compagnon de l'homme le plus fou du monde. Lui, précisément, et nul autre. À chaque instant, il trompe son maître, le trompe comme un petit enfant, mais en même temps, il est plein d'admiration pour la grandeur de son cœur et croit réel tous ses rêves fantastiques. Il ne doute pas une minute que son maître n'arrive à lui conquérir une île. Il est bien à désirer que notre jeunesse prenne une sérieuse connaissance des grandes œuvres de la littérature universelle. Je ne sais pas ce que l'on apprend aujourd'hui aux jeunes gens en fait de littérature, mais l'étude de ce Don Quichotte, l'un des livres les plus géniaux et aussi les plus tristes qu'ait produit le génie humain, est fort capable d'élever l'esprit d'un adolescent. Il y verra, entre autres choses, que les plus belles qualités de l'homme peuvent devenir inutiles, exciter la risée de l'humanité, si celui qui les possède ne sait pas pénétrer le sens véritable des choses et trouver la parole nouvelle qu'il doit prononcer. D'ailleurs, je n'ai voulu dire qu'une chose, à savoir que l'homme qui a fait les rêves les plus fous, les plus fantastiques, en arrive tout à coup au doute et à la perplexité. Toute sa foi est partie, et ce n'est pas parce que l'absurdité de sa folie lui est révélée, mais bien parce qu'une circonstance secondaire l'éclaire momentanément. Cet homme aux idées de l'autre monde éprouve subitement la nostalgie du réel. Si des livres qu'il vénère comme véridiques l'ont trompé une fois, ils peuvent le décevoir toujours. Tout en eux peut n'être que mensonge. Comment revenir à la vérité? Il croit y revenir en imaginant une absurdité beaucoup plus forte que la première. Les centaines de mille hommes évoqués par des magiciens auront des corps de mollusques, et l'épée du bon chevalier ira 10 fois plus vite en besogne. Son besoin des ressemblances sera satisfait. Il aura le droit de croire au premier rêve grâce à un second beaucoup plus ridicule. Interrogez-vous vous-même et voyez si la même chose ne vous est pas arrivée 100 fois. Vous avez été pris d'une idée, d'un projet, d'une femme? Eh bien, qu'un doute vous soit venu. vous aurez eu soin de vous créer une illusion plus menteuse que la première, qui vous aura permis de continuer à être épris et de vous débarrasser du doute. Octobre. Chapitre 1. Le suicide de Hartung et notre éternelle question « À qui la faute ?» Tous les journaux russes ont parlé du suicide du général Hartung. À Moscou, pendant une séance de la cour d'assises, un quart d'heure après le prononcé du verdict qui le condamnait. Je pense donc que tous les lecteurs du carnet connaissent cet événement tragique et que je n'ai pas à en rappeler les détails. Vous vous souvenez que ce haut gradé s'était lié avec un tailleur, puis avec un usurier du nom de Zantlefben. Ce n'était pas uniquement parce qu'il avait besoin d'emprunter de l'argent à ce dernier, puisqu'il consentit amicalement à être désigné sur le testament de Zantlefben comme exécuteur testamentaire. À la mort de Zantlefben, le livre de billets à ordre disparaît. Quant à ces mêmes billets à ordre et autres papiers d'affaires, ils sont, au mépris de tous les usages légaux, emportés par Hartung à son domicile. Puis il entre, sans peut-être bien s'en douter, dans une machination destinée à avantager une portion des héritiers aux dépens de l'autre. Il semble que ce ne soit que plus tard que l'infortuné exécuteur testamentaire ait pu se rendre compte du genre de guépier où il s'était fourré. Bientôt, on l'accuse de vol, de faux, de soustraction de documents. On parle de 200 000 roubles disparus. Le procès arrive, et le procureur paraît ravi de voir le général assis sur le même banc qu'un homme du peuple, consacrant ainsi le principe d'égalité. Pourtant, le tribunal, quoi qu'on en dise, juge l'affaire de la façon la plus régulière, et les jurés rapportent un verdict qui déclare coupable Hartung et ses coaccusés. La cour se retire pour délibérer sur la sentence, mais Hartung ne l'attend pas. On l'a fait sortir un instant. Il est assis près d'une table, dans une autre pièce, et tout à coup une détonation retentit. Il s'est tiré un coup de revolver dans le cœur. On a trouvé sur lui une lettre dans laquelle il jurait au nom du Dieu Tout-Puissant qu'il n'avait rien dérobé et qu'il pardonnait à ses ennemis. Cette mort a fait une vive impression à Moscou et dans toute la Russie. Les journaux ont fulminé contre un verdict évidemment injuste. Quelques-uns ont fait observer qu'on ne pourrait pas à présent taxer nos tribunaux d'indulgence exagérée. « Voyez, » disent-ils, « ces jurés ont été cause de la mort d'un innocent. » D'autres ont été d'avis qu'on ne pouvait pas ne pas croire aux dernières paroles d'un homme, et qu'il y avait donc là une regrettable erreur judiciaire. Il y a eu quelques opinions assez étranges, peut-être sincères, mais erronées. Hartung est à plaindre, certes, mais il y a dans tout cela plutôt une fatalité de la vie russe que la faute de qui que ce soit. Pour mieux dire, tout le monde est coupable. Les mœurs et habitudes de notre société russe ne le sont pas moins. Et puis nos jeunes tribunaux, imités d'institutions analogues de l'étranger, ne sont pas encore assez russifiés. De toutes les opinions exprimées par les journaux, celle de Novoïe Vremia m'a paru la plus juste. J'ai causé avec l'un de nos plus fins juristes, qui m'a montré de façon très satisfaisante tout le côté tragique de l'affaire et les causes de la tragédie. Le lendemain de cette conversation, je lisais un feuilleton du Nieznaskometz, dont les commentaires ressemblaient beaucoup à ceux que j'avais entendus la veille. Je vous en dirai rapidement quelques mots. Chapitre 2. Un gentleman reste gentleman jusqu'au bout. Une des manies de nos gentlemen russes, c'est la manie de représenter le besoin de mener un grand train de vie. Je laisse encore Hartung en dehors du débat, pour l'instant. Je ne parle qu'en général des membres de notre classe intelligente auxquels pourrait arriver la même chose qu'Hartung. Un homme quelconque, sans grande situation personnelle, pénètre subitement dans la haute société. Sans autre fortune que ses relations, Il veut posséder une voiture, un logement où il soit possible de vivre, des domestiques, etc. Peut-être est-ce dans l'intention de faire son chemin, mais le plus souvent, il n'agit que par esprit d'imitation. Tout le monde vit comme cela. Pourquoi vivrais-je autrement? Il se fait un nouveau code de l'honneur où la vraie dignité n'a rien à voir. Un autre trait de notre homme intelligent russe, c'est sa mollesse, sa facilité à se laisser aller à toute compromission. Il y a un tas d'exploiteurs, de boursiers, de tripoteurs, qui sont des gens répugnants, mais fermes. Mais ils sont peu nombreux. La société russe, honnête, se distingue par son besoin de faire toutes sortes de concessions, d'être toujours d'accord avec tout le monde. Cette expression « tout le monde » a une extrême importance pour un russe qui aime toujours à être d'accord avec l'opinion générale. Puis ce même russe a un talent tout particulier pour s'entraîner lui-même à faire une sottise. Il n'aura peut-être aucune envie d'aller chez Zanfleben et de devenir son exécuteur testamentaire. Mais il se convaincra lui-même qu'il ne saurait faire autrement. Eh bien, quoi? Allons-y. Dans cette sphère des Russes intelligents, on trouvera des gens extrêmement sympathiques, mais malheureusement affligés de ces manies de gentlemen auxquelles je faisais tout à l'heure allusion. Beaucoup d'entre eux sont d'une naïveté touchante. Leur ignorance des affaires leur donne quelque chose d'attendrissant, mais ils ont un terrible sentiment de l'honneur. S'ils perdent ce qu'ils appellent l'honneur, ils se brûleront la cervelle comme Hartung. Mais ils ignorent le chiffre de leurs dettes. Ce ne sont pas toujours des noceurs. Il y a parmi eux d'excellents maris et d'excellents pères, mais ils dissiperont leur argent aussi bien que des noceurs. Certains d'entre eux commencent la vie avec des bribes de fortune provenant de la vente de terres héréditaires. Ces sommes disparaissent avant la fin de leur jeunesse. Après cela, ils se marient, trouvent un emploi de fonctionnaire quelconque, mais les dettes augmentent sans interruption. Notre gentleman les paiera parce qu'il est un gentleman. Mais ce sera en contractant de nouvelles. Je suis sûr que s'il faisait son examen de conscience, il verrait très bien qu'il est honnête, qu'il ne veut en rien faire tort à personne. Et pourtant, il lui arrivera d'emprunter 10 roubles à la bonne de ses enfants, 10 roubles qu'elle aura amassés copec par copec. Maintenant, qu'y a-t-il de mal à cela? La vieille bonne a parfois longtemps vécu chez lui. Elle est presque une intime de la famille. Elle a honte de lui reparler de ses 10 roubles. Si l'on avait, à temps, rappelé à notre gentleman sa dette de 10 roubles, il en eût été plus tourmenté que d'une dette de 10 000. Malheureusement, il ne pourra plus en parler qu'aux anges, car il ira sûrement en paradis. La vieille bonne le regrettera et dira de lui « Dieu le voit, c'était un bien brave homme, le meilleur des maîtres. » Mais si cet homme excellent pouvait revenir sur terre et se réincarner en un gentleman, paierait-il sa dette à la vieille bonne, oui ou non? Il n'est pas toujours emprunteur, notre gentleman. Son très noble ami Ivan Petrovitch le prie de signer pour 6 000 roubles de lettres de change. « Je les mettrai, dit-il, à la banque. Je les escompterai. Et voici, mon très cher ami, des contre-lettres de change pour 6 000 roubles. » Inutile de réfléchir. Le gentleman signe la lettre de change. Il continue à rencontrer souvent au cercle Ivan Petrovitch. Tous deux, en gens comme il faut, ont oublié les lettres de change. Mais au bout de 6 mois, les 6 000 roubles sont réclamés au gentleman. C'est alors qu'il a recours aux gens comme Zanitlben et qu'il fait des billets à 100%. Croyez bien qu'en ces suppositions, je ne prétends aucunement raconter la vie du général Hartung que je n'ai jamais connu. Mais je prétends qu'au personnage que j'esquisse, il pourrait arriver exactement tout ce qui est arrivé au général Hartung. Tout, jusqu'au suicide inclusivement. Voilà pourquoi il me paraît que, dans cette affaire, il n'y a rien à reprocher au tribunal. La faute en est à la fatalité. C'est une tragédie. Jusqu'au dernier moment, le général se considéra comme innocent et laissa la fameuse lettre. Mais, me dira-t-on, comment admettre qu'un croyant puisse mentir dans un pareil moment? Il est certain qu'il n'a rien volé. Vous ne voulez pas qu'il ait été assez inconscient pour ignorer s'il avait volé ou non. Le vol est une action matérielle, une action qui s'accomplit avec les mains. C'est tout simplement cette question. A-t-il rempli sa poche, oui ou non? Il doit bien savoir s'il ne l'a pas rempli. Parfaitement juste. Mais voici ce qui peut être arrivé. Ce qui est sûrement arrivé. Il n'a parlé que de lui-même quand il a écrit « Je n'ai pas volé, je n'ai pas pensé à voler. » Les autres ont pu voler. C'est impossible. S'il avait permis aux autres de filouter et s'était tu, il aurait été un filou comme les autres. Le général Hartung ne pouvait pas ne pas comprendre que c'était la même chose. Je répondrai. D'abord, on peut douter qu'il ait connu le vol. Ensuite, il est possible que le général Hartung veuille dire « Moi, je n'ai rien pris, et les autres ont volé contre ma volonté. Je suis un homme faible, mais je ne suis pas un filou. J'ai même opposé une résistance aux filouteries des autres. » Il est allé vers Dieu, sachant qu'il n'était pas coupable d'un vol accompli malgré lui. Mais il avait trop de cœur pour supporter qu'on pût le croire voleur, lui aussi. Puis, si sa lettre n'est pas explicite, c'est qu'il n'eût su, lui, gentleman, dénoncer les filous, surtout au moment où il pardonnait à ses ennemis. Peut-être même ne se sentait-il coupable d'aucune faiblesse. Il pouvait y avoir eu dans toute l'histoire un tel enchevêtrement de circonstances qu'il ne s'y reconnaissait plus. Du reste, les débats ont établi qu'il ne comprenait absolument rien aux affaires. Une force aveugle semble l'avoir choisi lui seul comme victime expiatoire des vices de la société à laquelle il appartenait. Il y a peut-être 10 000 Hartung dans ce monde-là, mais seul Hartung a péri. On comprend que l'horrible fin de cet homme, après tout honnête, ait excité la plus vive émotion dans les milieux fréquentés par les 10 000 individus en question. Cette tragédie a pu être un avertissement pour ceux qui vivaient comme Hartung. Chapitre 3. Le mensonge est nécessaire pour la vérité. Je veux bien vous communiquer une impression qui m'est venue, bien qu'elle soit peut-être un peu naïve. C'est au sujet de notre tribunal. On considère aujourd'hui un tribunal où siègent des jurés comme la perfection idéale. On vous dira d'ailleurs « Inventez mieux si vous pouvez !» Admettons donc qu'on ne puisse rien imaginer de mieux. Et cependant, entre en scène monsieur le procureur. Supposons-le l'homme le meilleur, le plus instruit, le plus consciencieux, le plus chrétien du monde. Eh bien, cet homme exquis commencera par se féliciter, en quelque sorte, que tel crime ait été commis, parce qu'il était vraiment temps que tel ou tel misérable reçût son châtiment. Si vous saviez, messieurs les jurés, la canaille que ça fait. Il n'a pas dit « canaille », bien entendu, mais c'est tout comme. Dans un style plus poli, il l'a présenté comme pire que la plus crapuleuse canaille. D'un ton navré, il raconte que la mère de l'accusé était absolument pareille à son rejeton. Celui-ci n'a pu faire autrement que de voler, son milieu le voulait. Il a tout accompli avec la plus consciente préméditation. Rappelez-vous cet incendie qui a éclaté dans la rue voisine, juste à la minute de la perpétration du crime, et qui a détourné l'attention des portiers et du quartier. Oh, loin de moi la pensée d'accuser positivement le prévenu d'avoir mis le feu. Mais vous avouerez, messieurs les jurés, qu'il y a là une bien étrange coïncidence. Ce voleur, cet assassin, car il aurait certainement assassiné quelqu'un si le logement n'avait été désert. Vous le condamnerez, oui, vous condamnerez cet incendiaire notoire. Vous donnerez ainsi aux ménagères la faculté de s'éloigner un instant de leur logis pour aller faire leurs achats. Et les propriétaires n'auront plus à trembler pour leurs immeubles, assurés ou non. Et qu'ai-je besoin de vous exposer tout cela? Regardez-le, le bandit, mais regardez-le! Sa figure ne le dénonce-t-elle pas tout de suite? Sa figure de voleur, d'assassin, d'incendiaire? Je regrette seulement qu'il n'ait pas perpétré 10 vols, 10 assassinats et 10 incendies de plus, car alors la société eût été obligée de sortir de son coupable sommeil, de se défendre enfin. Nous n'ignorons pas que le procureur parle de façon beaucoup plus noble. Nous faisons de la parodie, bonne pour les petits journaux comiques. Mais supposons que nous soyons en présence d'une affaire qui relève un tant soit peu de la psychologie. Nous savons que tous les procureurs sont terriblement forts en psychologie. Eh bien, ce sera encore la même chose. Le procureur en viendra toujours à déplorer qu'au lieu d'un seul empoisonnement, par exemple, il n'y en ait pas eu 10, 100, 500, parce que les cœurs de la foule frémiraient enfin et que la société se lèverait comme un seul homme, etc. On va m'objecter que le procureur est un fonctionnaire qui doit agir selon les nécessités de son emploi. Son rôle est d'exagérer l'accusation. Cela ne fait de mal à personne. Au contraire, c'est utile. Il y a là l'avocat dont la tâche est précisément de réfuter le procureur. Il lui sera permis de prouver, avec politesse, que ce procureur est un parfait et inepte imbécile et un gredin, puisque c'est lui-même qui a mis le feu à la 3e avenue de l'île Basile. La preuve, c'est que le procureur se trouvait justement ce jour-là dans la dite île Basile pour fêter l'anniversaire de naissance du général Mikhaïlov, homme excellent et tout ce qu'il y a de plus noble. Si ce procureur n'avait pas lui-même incendié l'immeuble par haine pour son propriétaire, le marchand Ivan Borodati, il ne lui serait pas venu à la tête l'idée stupide d'accuser le prévenu. Souvenez-vous aussi qu'il est permis aux avocats, par les règles de leur art, de faire d'immenses gestes, de verser des larmes, de grincer des dents, de s'arracher les cheveux, et même de tomber évanouis quand leurs nobles cœurs ne sont plus de force à supporter une accablante injustice. Il n'est aucunement loisible au procureur d'en faire autant, si noble que soit son cœur. Il serait déplorable de voir s'étaler raide un personnage revêtu d'un uniforme officiel. Ce n'est pas l'usage. Je me permets encore de caricaturer quelque peu ce qui se passe en réalité avec une impressionnante noblesse, mais je ne me soucie que de l'essence des choses. J'arrive au même résultat qu'en employant le langage le plus noble. « Eh bien, me dira-t-on, procureurs et avocats sont dans leur rôle. Il faut un peu d'exagération de part et d'autre. Le juré est parfois un homme pas trop affiné, occupé de sa boutique, de son négoce. Il est distrait au besoin et pas toujours de force à apprécier sainement les choses. Il est nécessaire de l'impressionner. Aussi, là-bas, dans la chambre des délibérations, nos jurés, dès leur entrée, savent-ils déjà à peu près ce qu'il convient de faire. Ils accomplissent leurs fonctions presque mécaniquement. C'est pour cela qu'une attaque acharnée et une défense également acharnée sont de mise. La violence de l'attaque peut servir l'accusé. On ne peut donc rien inventer de mieux. Avec cela, la justice est entourée de publicité. La foule afflue dans la salle d'audience. Est-ce simplement pour le spectacle? Non, elle veut être édifiée et sort de là avec les impressions les plus salutaires. Cependant, tous les assistants ont vu qu'il y avait dans tout cela quelque chose d'insincère. Non pas, certes, dans la conduite du tribunal ou dans la rédaction de la sentence. Mais ces habitudes dramatiques empruntées aux tribunaux européens se sont trop enracinées chez les représentants de la défense et de l'accusation. Je rentre chez moi après ces débats et me mets à penser. « Mais, me dis-je, je connais personnellement Ivan Christophorovitch, le procureur. C'est un très brave homme, d'un grand esprit. Et pourtant, il a menti, et sait qu'il a menti. C'était une affaire de 2 mois de prison, et il la traitait comme une affaire de déportation. Que ces exagérations aient servi à rendre tout plus clair, je le veux bien. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il a menti consciemment. Il a ainsi nui de son plein gré à l'accusé, étant donné surtout que la défense était médiocre. C'est l'amour-propre d'Ivan Christoforovitch qui est entré en jeu, aux dépens d'un malheureux prévenu. Est-ce excusable de la part d'un homme aussi humain, aussi hautement civilisé? Nous admettons que de tout cela sorte enfin la vérité. Mais c'est par une voie tortueuse. La foule, qui est accourue là comme au spectacle, s'écriera à la sortie « Comme ce procureur, ou comme cet avocat, ment bien !» C'est donc le goût du mensonge cynique qui s'infiltre dans le public. On n'a plus soif de vérité, mais de talent. Le sentiment humain s'atrophie, et l'avocat n'y remédiera pas par s'évanouissement fin. Je sais que ce ne sont là que vaines récriminations de ma part. Pourtant, ces assises et ces jurys sont des institutions purement européennes. N'est-il pas possible d'espérer que des modifications apportées par l'esprit russe enlèveront à ces audiences ce qu'elles ont de trop mensongèrement théâtral? Alors tout serait vrai et sincère. Il n'y faut pas compter pour l'instant. Défenseurs et accusateurs continueront encore longtemps à se faire remarquer par leur détestable manie. Les uns cherchent l'argent, les autres une carrière brillante. Mais un jour, peut-être, le procureur aura le droit de défendre l'accusé. Si bien que, si la défense proteste contre ce que l'on aura dû laisser subsister de l'accusation, les jurés ne le croiront plus, tout simplement. Je crois que cette nouvelle méthode mènera plus vite à la vérité que l'ancien système, qui consiste à outrer l'accusation et la défense. Peut-être tout finira-t-il par apparaître dans ses proportions exactes. On n'ira plus au tribunal comme au théâtre, mais pour y chercher une leçon de morale. Ah, les avocats auront de moins beaux honoraires. Mais cette utopie ne deviendra une réalité que quand nous aurons des ailes, quand nous serons des anges. Trop tard, il n'y aura plus de tribunaux.